Je voudrais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce que produit Peugeot? Ah, vous avez saboté tout. Voilà. Bon, ben vous l'avez dit, il fallait le dire. Ce qu'on appelle les entreprises d'affaires maintenant ne produisent pas des biens et services utiles, nuisibles, criminels ou inutiles. Elles produisent des profits. Toute notre vie, qui est dominée par les grandes entreprises d'affaires, toute notre vie est dominée donc par notre vie en social est organisée autour de cette production de profit. Alors je voudrais qu'on distingue bien deux choses, qu'on distingue l'entreprise d'affaires dont l'objectif est de produire des profits, dont l'objectif est de gagner de l'argent, des entreprises artisanales, paysannes ou des petites entreprises, les maçons, les menuisiers, tous ces métiers qui existent encore, dans lesquels les gens cherchent à gagner leur vie. Il y a une différence absolue entre les deux, entre gagner de l'argent et gagner sa vie, même si ceux qui gagnent leur vie en gagnant de l'argent. Mais le but n'est pas de gagner de l'argent, il est de gagner sa vie. Ça n'a rien à voir. Donc notre vie est entièrement dominée par cette quête du profit, puisque les grandes entreprises fabriquent, les grandes et moyennes entreprises fabriquent jusqu'à 80 ou 90%, ça dépend des pays, du fameux PIB. Bien. Une fois qu'on a établi ça, qu'est-ce que ça signifie de vivre dans une société qui est dominée par la production de profits? Encore une fois, on est dans un monde, vous pouvez le voir tous les jours, où peu importe ce qui est profit, que ce soit, peu importe ce qui est produit, que ce soit utile, nuisible, criminel, inutile, peu importe, si c'est profitable, ce sera produit. Si demain la production de couches-culottes est plus rentable que la production d'automobiles, Peugeot produira des couches-culottes. Le capital a cette fabuleuse capacité à se déplacer d'un endroit à l'autre sous la forme des fonds d'amortissement. Eh bien, une entreprise quitte un secteur et elle va s'investir ailleurs. Le capital est en quelque sorte quelque chose d'immortel. Bien. Alors maintenant, le vivant dans tout ça. Bien, les êtres vivants ont une propriété malheureuse du point de vue du capital, c'est que ils se reproduisent et se multiplient gratuitement. Je dirais même que certains êtres vivants le font avec plaisir. Et ça, c'est encore plus douloureux pour le capital. Donc, on est dans une société, depuis le capitalisme industriel, ça remonte à maintenant 2 siècles, peut-être un peu plus de 2 siècles, où il y a une lutte frontale qui s'est engagée entre cette injustice de la nature et puis la loi qui nous domine. Depuis maintenant plus de 2 siècles, eh bien, les investisseurs, les sélectionneurs, généticiens, il fallait attendre 1900 pour qu'on commence à parler de génétique, mais les sélectionneurs, eh bien, sont dans cette quête du profit, quels qu'en soient les coûts. Alors ça a commencé avec les animaux. Ça a commencé avec les animaux, à la fin avec d'abord les chevaux de course, l'aristocratie anglaise. Je vous renvoie à un article que vous pouvez trouver facilement sur Internet, que j'ai écrit, qui a été publié dans des revues suisses, enfin je ne sais pas très bien où, je ne me rappelle plus très bien, qui s'appelle Sélection aristocratique et sélection bourgeoise de la lutte de classe dans les pratiques de sélection, dans lesquelles je montre que les aristocrates anglais, éleveurs de chevaux de course, qui vont être les précurseurs dans ce domaine, vont inventer un système de sélection des chevaux de course, exactement sur la base du système de transmission du pouvoir et de la richesse, qui est le système de transmission du pouvoir et de la richesse dans l'aristocratie. C'est-à-dire que, à partir du moment où un animal, un cheval de course, a les bons papiers, même s'il n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre, peu importe, eh bien, cet animal a de la valeur. Il faut avoir les bons papiers. Alors, je passe sur la façon dont on arrive à définir ce que vont être le fameux pédigré des animaux, les fameux livres des origines. Le terme dit bien ce qu'il veut dire, livre des origines. Si un cheval a dans son lointaine ascendance un reproducteur fondateur de la race des purs sang anglais, eh bien, il appartient à la caste et il possède tous les attributs de la caste. Par contre, un cheval roturier, même s'il court très bien, ne sera pas capable d'avoir la même valeur qu'un cheval, disons, noble, qui n'a pas les, qui n'a pas les, qui a les papiers. Ce système qui est inventé pour les chevaux de course et qui est mis en place dès 1770-75 en Angleterre, système de sélection, système de livre des origines, va être repris au 19e siècle pour les animaux. D'abord, ça va être pour les brebis, pour les moutons. Ensuite, ça va être pour les élevages de bovins. C'est-à-dire que c'est exactement le même système dont vous retrouvez encore des traces à l'heure actuelle, puisque ceux qui ont, par exemple, des chevaux qui élèvent des animaux de compagnie, eh bien, vous savez qu'il y a un livre des origines pour les animaux de compagnie. Il y a des livres d'origine pour les animaux de ferme également, même si le système s'est matiné, c'est beaucoup transformé. Pourquoi? Parce que, pour une raison très simple, c'est que à partir du moment où on a fermé les pédigrés, c'est-à-dire on est parti, si vous voulez, d'un groupe de fondateurs de la race, eh bien, il n'y a pas de progrès possible puisque le travail de sélection va consister à battre et rebattre sans arrêt le même jeu de gènes. De la même façon que vous battez, disons, quand vous jouez au poker, le même jeu de cartes. Bien, de temps en temps, vous pouvez avoir une canne flush, c'est assez rare. La plupart du temps, vous n'avez rien du tout, ou c'est très médiocre. Eh bien là, c'est exactement pareil. Dans le cadre de ces pédigrés fermés liés à cette sélection sur ascendance, eh bien, vous avez on rebat le jeu de cartes. Alors, exceptionnellement, il arrive un individu formidable, mais la plupart du temps, les individus que vous avez sont plutôt médiocres. Il suffit de regarder d'ailleurs les cours, les aristocraties, à l'heure actuelle en Europe, pour s'en apercevoir. Alors bien, je sais bien que maintenant, à la cour de roi de Monégasque, on essaye d'introduire un peu de gènes étrangers pour améliorer les choses, mais bon, c'est un processus de sélection qui est quand même assez lent et qui ne donne pas des résultats immédiats, comme vous, on a pu s'en apercevoir. Donc, à partir du moment où on met en place ce système de sélection sur descendance, il n'y a pas de progrès. Il se trouve quand même que au Danemark, à la fin du 19e siècle, les éleveurs danois qui produisent du lait, qui produisent du beurre, qui produisent de la viande, qui produisent du porc pour le marché anglais, commencent à s'inquiéter de cette situation. Ils battent et rebattent sans arrêt le même jeu de cartes, il n'y a pas de progrès. Donc ils se grattent la tête et se disent, mais enfin, c'est pas possible. Cette sélection sur ascendance, visiblement, ne donne aucun résultat intéressant. Et donc, ils vont progressivement mettre au point un nouveau système de sélection, que j'appelle le système de sélection bourgeois, qui va être complètement différent, puisque maintenant, la valeur d'un reproducteur va être liée non pas à son ascendance, mais à sa descendance. C'est-à-dire qu'on va tester les produits d'un mâle, par exemple, d'un taureau, on va tester sa descendance, et si sa descendance est meilleure, la descendance du taureau A est meilleure que la descendance du taureau B, dans des conditions d'étable, évidemment, qui sont fixées, eh bien, on pourra dire que le taureau A disons, a une meilleure valeur héréditaire que le taureau B. Donc, voyez-vous, on a, d'où le titre de cet article, les pratiques de sélection, sélection sur ascendance, sélection sur descendance, sélection bourgeoise sur descendance. Et on est toujours dans cette problématique-là. Alors, ce qui pose un autre, ce qui permet de soulever un troisième problème, c'est que il y a eu des méthodes de sélection, des sélections qui ont été faites par les paysans du monde entier depuis maintenant des milliers d'années. C'était une sélection qui n'était pas destinée à une sélection disons, de monopolisation, une sélection destinée à faire du profit. C'était une sélection qui était destinée à l'utilité. L'utilité, c'est-à-dire la valeur d'un animal pour la boucherie. D'abord, ça a été plutôt pour un animal de trait. Je pense aux chevaux de trait français, les percherons, etc. Ça, c'est le produit de la sélection locale par des paysans pour un profil, si vous voulez, d'utilisation bien précis. Le comtois, les chevaux de trait légers, ou bien les races à viande, les races qui sont devenues les races à viande françaises, qui étaient des races de trait, les grandes races à viande françaises qui, vous savez, dominent le marché dans le monde entier. On peut dire le Charolais, le Limousin, les Salers, les Blondes d'Aquitaine, tout ça, c'était des animaux qui ont été des races, qui ont été littéralement créées par les paysans. Alors, vous voyez bien qu'entre les deux voies, sélection aristocratique, sélection bourgeoise, toutes pour le profit, il y a bien une troisième voie qui est la sélection pour l'utilité des choses. Alors, ces êtres vivants qui se reproduisent, se multiplient gratuitement, je vous ai dit, il faut lutter contre cette fâcheuse tendance. Et donc, en matière de plantes, ça va mettre beaucoup plus de temps. Pour les animaux, le système de Herdbook est un système de contrôle administratif. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir les bons papiers, d'inscrire un animal au Herdbook. S'il est inscrit au Herdbook, il a les bons papiers, donc il vaut quelque chose. C'est un système, disons, administratif de contrôle de ce qu'on appelle le sang des animaux. C'est le système qui est mis en place en Angleterre, qui va être reproduit un peu partout à travers l'Europe, au XIXe siècle. Pour les plantes, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué de pouvoir maîtriser administrativement le sang d'une plante, même si à l'époque, je vous rappelle, au XIXe siècle, on a pu parler du sang d'un blé. Au sens d'hérédité, on parlait de sang plutôt que d'hérédité. On ne parlait pas évidemment de gènes à ce moment-là. Les premiers sélectionneurs, ça se situe vers 1850, sélectionneurs industriels de plantes, je pense au Villemorin, mais je pense en Angleterre à un type qui s'appelle Hallett. Ces gens-là se rendent compte dès la première minute où ils entreprennent, ils sont dans le cadre d'une entreprise d'affaires, où ils veulent gagner de l'argent à partir de l'hérédité, ils se heurtent évidemment à ce problème que les plantes, elles, se reproduisent, se multiplient gratuitement. Donc que faire? Vous pensez bien que personne, aucun sélectionneur, aucun semencier n'allait voir les paysans en leur disant « Écoutez, pour moi, c'est un immense malheur ce qui arrive. Que les plantes se reproduisent gratuitement dans le champ du paysan, c'est une injustice totale. Et mon objectif à moi, de sélectionneur semencier, c'est de stériliser les plantes pour me créer le marché, pour vous empêcher de semer le grain récolté, qui est la pratique fondatrice de l'agriculture. Il faut absolument que je vous empêche de faire ça. Je dois stériliser les plantes. » Vous pensez bien qu'aucun semencier sélectionneur ne peut dire la vérité. Et là, je viens de vous dire, c'est le secret le mieux gardé de toute la génétique agricole et toute la sélection depuis maintenant un siècle et demi. Et ce secret a finalement été révélé brutalement en 1998 avec une technique de transgénèse dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle Terminator. Terminator est une technique de transgénèse qui permet de faire des semences qui vont germer normalement, la plante va pousser normalement, la plante va faire sa fleur normalement, mais au moment où le germe va se former dans la graine, eh bien, la plante a été programmée pour aller tuer sa propre descendance. Ce qui fait que l'agriculteur va récolter un grain stérile, le grain stérile ne germera pas, l'agriculteur on a résolu ce fameux problème consistant à séparer la production de la reproduction, séparer ce que la vie confond. C'est quelque chose, j'espère que vous sentez tout ce qu'il peut y avoir de mortifère derrière tout ça. On n'est pas dans un système scientifique de vie, tourné vers la vie, tourné vers l'avenir, tourné vers le changement, on est dans un système de mort. Il s'agit d'en finir avec cette idée, avec cette reproduction gratuite des êtres vivants. Et je suis en train de vous dire une chose qui est encore plus grave, c'est que ce mouvement est en train de s'étendre maintenant à la reproduction humaine. Avec évidemment tous les fantasmes du bébé parfait, du tri d'embryon, tout ce qui se profile derrière tout ça. On y vient. Le but est toujours le même. Il s'agit de créer un marché là où existait la gratuité. Alors toute l'histoire de la génétique agricole et de la sélection peut être lue à travers ce prisme. C'est vraiment l'histoire de la lutte des semenciers, lutte secrète. J'ai écrit un livre qui s'appelle La guerre aux vivants. Mais cette guerre à la vie, elle doit être restée secrète. Personne ne peut le proclamer sur les toits sous peine de la perdre. Donc ça fait deux siècles que ça dure, et donc les principaux moments ont été la fameuse technique dite des hybrides de maïs, qui est la technique qui a dominé la sélection au XXe siècle avant les soi-disant OGM. Alors je vais vous dire quelques mots de ce maïs hybride parce que C'est vraiment la technique phare de la recherche économique et c'est la plus gigantesque mystification scientifique, à mon avis, du XXe siècle. En tout cas par la durée, parce que ça fait un siècle que ça dure et qu'un siècle que les généticiens et sélectionneurs racontent des bobards là-dessus. Pour comprendre en quoi consiste la sélection des plantes, il faut, disons, imaginer un champ de blé il y a maintenant 50 ans ou 60 ans, quand l'agriculteur cultivait des variétés. Variété, c'est un terme qui dit bien ce qu'il veut dire. Variété, ça veut dire caractère de ce qui est varié, diversité. Et de fait, quand s'il y a encore des paysans qui ont cultivé ces blés d'autrefois, eh bien, ces champs de blé, on s'apercevait que les épis avaient des tailles différentes, des maturités différentes, des formes différentes, même s'ils avaient un type commun. C'est-à-dire, ce qu'on appelait variété, c'était des ensembles de plantes. C'est la notion de race chez les animaux. C'est-à-dire, des animaux qui ont un ensemble de caractères apparents, particulièrement visibles, disons identiques ou presque, mais quand on observe, disons, derrière ces caractères apparents, de façon plus précise, d'autres caractères, on s'aperçoit qu'il existe une grande diversité. Donc autrefois, les paysans cultivaient des races de blé, des races de maïs, on appelait ça des populations de maïs, des races de blé, des races de populations de maïs, et des races. Et le terme de race est d'ailleurs utilisé au XIXe siècle, disons, exactement comme l'équivalent du terme variété. Par exemple, dans le livre qui est publié par Lévi-Morin en 1880, qui s'appelle « Les meilleurs blés », ils utilisent, disons, parfois le terme race plutôt que le terme variété pour désigner ce caractère divers qui règne, disons, au milieu de caractères particulièrement visibles et communs aux individus de la race. De la même façon qu'on parle de race blanche, race jaune, race... Vous voyez bien ce que ça signifie, quoi. On peut reconnaître quelqu'un qui est de race noire immédiatement au premier coup d'œil, mais bon, bien sûr, les noirs entre eux sont extrêmement différents entre eux. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Bon. Donc, cultiver des variétés dans ce sens-là. Maintenant, si vous observez un champ de blé moderne ou un champ de maïs moderne, encore mieux, puisque vous devez voir du maïs par là, puisque j'ai vu qu'il y avait de l'irrigation. Si vous observez un champ de maïs moderne, vous apercevez que les plantes, elles sont toutes les mêmes. Comme on dit, l'expression dit, les blés font la table. Il n'y a pas une tête de blé, pas un épi de blé qui dépasse l'autre. On fait des variétés, on cultive, l'agriculteur maintenant cultive des variétés de blé, mais le terme variété maintenant désigne des plantes qui sont toutes les mêmes, et c'est même la loi qui l'exige. La loi exige que les plantes doivent être homogènes et stables. Homogène, ça veut dire que les plantes doivent être toutes les mêmes, et stable, ça veut dire que la même plante peut être offerte à la vente année après année. En fait, le rôle du sélectionneur, du semencier, c'est de faire des copies d'un modèle de plante qui a fait l'objet d'un dépôt auprès d'instances officielles. C'est-à-dire que ce sont des clones. Alors maintenant, quand vous utilisez le terme variété pour désigner ce que cultive un agriculteur moderne, non, vous n'y comprenez strictement rien si vous n'utilisez pas le terme de clone. Ce ne sont pas des variétés, ce sont des clones. C'est une distinction absolument essentielle parce qu'une bonne partie des tromperies sur lesquelles toutes ces questions-là reposent, c'est vraiment une question de vocabulaire. Tant que vous utilisez le terme variété pour aller acheter des lots de semences chez votre jardinerie, des plantes qui vont être toutes les mêmes, eh bien, vous êtes en train de vous faire avoir. Vous n'êtes pas capable de penser la réalité de ce qui vous est vendu. À part ça, bien sûr, on fait des colloques internationaux, récemment encore Chirac l'avait voulu, à propos de la perte de la biodiversité. Évidemment, on verse des larmes de crocodile en disant « la biodiversité fout le camp ». Bien sûr qu'elle fout le camp, la biodiversité. Si vous cultivez des clones, c'est sûr que la biodiversité, elle s'en va. Alors, le maïs hybride, je reviens à ça. Le maïs hybride, c'est quoi? Ça a consisté justement à cloner le maïs. C'est-à-dire à utiliser une technique de sélection qui remonte au début du XIXe siècle en Angleterre, appliquée d'abord au blé, l'orge et l'avoine, c'est-à-dire à des plantes qui, comme on le dit à l'époque, qui brident true to type, ça veut dire des plantes qui conservent leur caractère individuel d'une génération suivante. C'est le cas pour le blé, du fait du mode de fécondation du blé, une plante de blé, la descendance d'une plante de blé est strictement semblable à la plante mère. À partir de ce constat empirique, les sélectionneurs ou les agriculteurs gentilhomme agriculteur anglais, c'est-à-dire les gens qui participent à la révolution industrielle, se disent, puisque nous cultivons des variétés, caractère de ce qui est varié, diversité, que chaque plante de la variété conserve ses caractères individuels d'une génération à la suivante, je vais me promener dans le champ, chercher à identifier les plantes qui présentent un ensemble de caractères intéressants. Je vais les isoler, ils vont appeler ça la technique de l'isolement, je vais les isoler pour les cultiver individuellement, c'est-à-dire pour les cloner, dans mon langage à moi, et ensuite je vais choisir le meilleur des clones pour remplacer la variété. Si je devais faire la même expérience, disons en une seconde ici, si je pouvais vous cloner instantanément dans cette salle, et s'il y avait un type humain que je préfère à un autre pour une raison quelconque, je pourrais tous vous remplacer avec la diversité que vous représentez, la variété que vous représentez, par ce modèle unique. Et ça aurait un intérêt pour moi, je me demande lequel, mais bon. Donc, ce qu'il faut bien voir du point de vue logique, c'est qu'il y a toujours un gain à remplacer une variété de n'importe quoi par le meilleur n'importe quoi que vous avez isolé au sein de la variété que vous êtes capable de reproduire et de multiplier. Il y a toujours un gain. Alors j'en viens maintenant aux histoires de maïs hybride. Quand vous vous rendez compte que le maïs hybride, ce sont des clones, c'est-à-dire qu'on a fait exactement la même opération, vous vous rendez compte que le terme hybride est une mystification. Est une mystification. Pourquoi ? Parce que ça vous amène à parler des mystères de la vigueur hybride, alors ça prend des tas de formes, la dominance, la superdominance, l'hétérosis, et Dieu sait quoi encore, c'est tous les termes qui sont utilisés dans les écoles d'agriculture pour mystifier la réalité, pour ne pas parler de la réalité. Il s'agit de cacher la réalité. La réalité, c'est que pour la première fois avec les hybrides, l'agriculteur ne peut plus semer le grain récolté. C'est-à-dire que vous avez réussi à séparer la production de la reproduction. Je dois préciser que le fameux maïs dit hybride, ce maïs en quelque sorte captif, qu'il vaudrait mieux appeler captif, eh bien ce maïs captif n'est pas... bon, je ne sais plus, je m'en mêle dans mes explications. Le fait qu'il soit hybride, c'est pas le problème. Pardon ? Il n'est pas homozygote non plus. Peu importe. Il est hétérozygote. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce maïs, il a cette propriété merveilleuse qui s'autodétruit dans le champ du paysan. C'est comme si vous aviez un logiciel génétique, si vous voulez, qui fait que vous l'utilisez une fois, vous ne pouvez plus servir. Il faut revenir racheter vos semences chaque année. Il n'est pas entièrement détruit au sens où le maïs hybride n'est pas stérile, mais il est économiquement stérile au sens où l'agriculteur va perdre 10 ou 15 quintaux de rendement ou 20 quintaux de rendement par rapport à des semences de ferme. Donc vous avez, là, pour la première fois, créé de façon mystifiée, je vous l'ai expliqué pour comment, par la simple mutilation du terme hybride, on a détourné l'attention du public sur des questions scientifiques qui sont insolubles et qui sont toujours insolubles un siècle plus tard, pendant que, disons, pour créer un maïs qui est en réalité un maïs captif. Captif au sens où l'agriculteur doit renouveler ses semences chaque année, avec quand même une conséquence quand même qui est assez phénoménale, c'est que j'ai pu calculer pour la France, et je l'ai publié d'ailleurs, ça n'a pas suscité de réaction dans l'Institut à l'INRA, aucune réaction, j'ai pu publier que le surcoût des semences de maïs hybride par rapport à des semences de ferme, semences de ferme, vous les sèmeriez à raison de 15 kg hectare. Les semences de maïs hybrides, maintenant, coûtent l'équivalent de 15 quintaux, c'est-à-dire 100 fois plus. C'est vous montrer à quel point le fait de pouvoir posséder en quelque sorte l'hérédité, la contrôler, empêcher l'agriculteur de la reproduire, produit un marché absolument extraordinaire pour les semenciers. Et le surcoût des semences hybrides pour la France représente le budget de l'INRA. C'est phénoménal. J'avais calculé que ça, à l'époque, ça représentait 3,5 milliards de francs, c'est-à-dire exactement le budget de l'INRA, qui était payé en pure perte par les agriculteurs, alors qu'on aurait très bien pu obtenir des rendements tout à fait équivalents à ceux que l'on obtient par ces techniques hybrides, par des méthodes traditionnelles de sélection. Donc, vous voyez, là, avec la science ici, on a littéralement mystifié la réalité. Comme on ne pouvait pas dire que notre société a pour objectif de séparer la production de la reproduction, et que c'est ce que nous faisons pour le maïs, en quelque sorte de le stériliser, on a raconté un bobard scientifique qui dure depuis maintenant un siècle, qui consiste à dire c'est à cause de le mode de reproduction particulier du maïs que l'on fait ça. Autrement dit, on est en train d'expliquer par la nature ce qui est la création d'un droit de propriété sur le vivant. Et la mystification a parfaitement marché. Alors ça me fait penser, moi, à une scène du film « Les enfants du paradis » où vous voyez un bonimenteur qui donc captive l'attention du public pendant que les complices font les poches du public. Eh bien, c'est exactement la même situation qui s'est produite avec le maïs hybride. Les bonimenteurs scientifiques, disons, ont mystifié complètement, captivé l'attention de l'auditoire en leur parlant des bobards scientifiques, en les attirant sur un terrain auquel les gens ne comprennent rien, hein, pendant que les semenciers faisaient la poche des paysans. Alors l'histoire, voyez-vous, c'est un mécanisme qui est là derrière. Et ce mécanisme se poursuit encore à l'heure actuelle. Il se poursuit exactement selon le même schéma qui vise à truquer le vocabulaire et à détourner l'attention des vrais problèmes vers des questions mystificatrices, des questions ésotériques qui n'ont pas de réponse. Et alors c'est l'exemple du terme organisme génétiquement modifié. Organisme génétiquement modifié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment que le problème qui est posé, c'est la modification génétique, entre guillemets, qui n'est pas naturelle. Cette modification génétique créerait des dangers, des risques environnementaux, des risques pour la santé publique. Ça veut dire que, très naturellement, les États vont s'adresser aux scientifiques en leur disant « Est-ce que ces produits sont dangereux ou pas pour la santé publique ?» Les États sont pour les firmes, ils sont pour le progrès, ils sont pour que les choses avancent. Les firmes qui produisent ce genre de produits, qui produisent ces marchandises, qui les mettent sur le marché, elles ont demandé à l'État d'offrir une garantie. L'État dit d'accord, vous les mettez sur le marché, mais nous, on va quand même se protéger. On va, disons, protéger notre responsabilité. Et on va demander aux scientifiques leur avis pour autoriser ces produits. Donc, les entreprises organisent leur responsabilité en disant à l'État de donner les autorisations de mise en marché. L'État se tourne vers les scientifiques en leur disant « Qu'en pensez-vous ? » Les scientifiques rendent leur avis sur ces fameux OGM et disent « Il n'y a pas de problème. » L'EFSA a rendu 150 avis, je crois, ou 120 avis sur des organismes génétiquement modifiés, tous favorables. Il y a une chose qu'on oublie de vous dire, c'est que les scientifiques, quand ils rendent leur avis, ils utilisent, ou ils le disent rarement, mais c'est toujours implicite dans toute opinion scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une clause restrictive, qu'ils omettent bien de préciser, qui est dans l'état actuel des connaissances scientifiques. C'est-à-dire qu'on est face à un système, voyez-vous, qui est particulièrement bien verrouillé. Les entreprises organisent leur irresponsabilité en se tournant vers l'État. L'État organise son irresponsabilité en se tournant vers les scientifiques, et les scientifiques disent il n'y a pas de problème dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Donc tout le monde est à l'abri. Et vous regardez toutes les technologies nouvelles, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que ça se passe, d'autant plus que, bien entendu, tout l'effort scientifique est organisé de telle façon qu'on ne réussisse pas à démontrer qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on s'efforce d'organiser l'absence de preuves en ne faisant pas les recherches, et à partir du moment où il y a absence de preuves de toxicité de tel ou tel produit, c'est la preuve de l'absence de toxicité. C'est le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Parce que ce monde, encore une fois, l'État, toutes les institutions de l'État, est complètement dominé par cette nécessité de la production de profit. Plus il y a de profit, mieux ça vaut. Et donc, on ne peut pas aller contre la production de profit. Il faut absolument favoriser cette marche en avant, ce qu'on appelle le progrès, profit. ça va ensemble. Alors, si je ne parlerai pas, on peut peut-être, si j'ai des questions, je vous répondrai sur l'état actuel des connaissances scientifiques. Disons que, en gros, les connaissances scientifiques dans le domaine de la biologie, maintenant, on sait depuis au moins l'an 2000 qu'on est proche, on est de retour au, disons, à une situation où on n'y comprend rien. C'est aussi simple que ça. Jusque dans les années 1980, on pouvait croire que le système de mode de pensée qui disait un gène, une protéine, pas d'effet de retour des protéines sur les gènes, je ne rentre pas dans les détails. Mais bon, c'était quelque chose qui permettait de faire toutes les manipulations sans aucun problème. Maintenant, on sait parfaitement que c'est faux. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une créativité technique qui est parfois prodigieuse, qui est extrêmement astucieuse, mais qui ne repose sur aucune base véritablement, disons, de cadre scientifique solide. On ne sait pas ce qu'on fait. Donc c'est une situation qui me semble extrêmement dangereuse. Alors quel est le terme qu'il faudrait utiliser plutôt qu'OGM ? OGM, je vous l'ai dit, génétiquement modifié, vous confiez le problème aux experts, c'est aux experts de dire ça. Je vous explique comment les experts fonctionnaient. Et ça veut dire que le problème est sorti de la démocratie. Vous n'avez rien à dire, vous. Vous êtes les spectateurs de ce jeu de rôle qui est organisé par l'État, les firmes et les scientifiques. Maintenant, si nous voulons avoir un rôle plus actif, il faut s'intéresser non pas à la modification génétique, ça on s'en fout. Il faut s'intéresser aux problèmes posés, à ce qui est vendu. Qu'est-ce qui est vendu sous le nom d'OGM ? Bien, je vous l'ai dit, vous le savez, la loi l'exige, ce sont d'abord des clones. Les plantes sont toutes les mêmes. Ça veut dire adieu la diversité. En plus, ces clones sont des clones pesticides. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Il a dit qu'il ne voulait pas entendre parler d'OGM pesticides, mais il n'y a que ça, malheureusement. 99,6% des OGM vendus dans le monde sont des plantes pesticides, c'est-à-dire ce sont soit des plantes qui fabriquent un insecticide, ça veut dire que l'insecticide se trouve dans toutes les cellules de la plante, ça veut dire que cet insecticide entre dans notre alimentation. D'autre part, deuxième type de technique, ce sont des plantes qui peuvent manger un herbicide sans en crever. C'est-à-dire qu'on a mis une cassette transgénique à l'intérieur de la plante qui fait que l'herbicide, pour agir, doit rentrer à l'intérieur de la plante. Et là, à l'intérieur de la plante, cet herbicide est purement et simplement neutralisé. Ça ne veut pas dire qu'il est éliminé. Il est neutralisé. Et il est très peu métabolisé, c'est-à-dire très peu transformé dans le cas du glyphosate. Ça veut dire là, si vous voulez, que là aussi, l'herbicide entre dans la ration, dans notre alimentation. Derrière ça, il y a un projet que je trouve personnellement, moi, dément, qui est qu'il s'agit de changer le statut des pesticides. Au lieu que jusqu'à présent, les pesticides étaient des produits dangereux qu'il fallait éliminer de notre alimentation, maintenant, le projet est d'en faire des constituants de notre alimentation. J'avais raconté ça un jour à la télévision en Italie, et j'avais conclu en disant... L'Italie a apporté au monde ce plat sublime de simplicité qu'on appelle la pasta al pesto. Et maintenant, avec les firmes donc agrochimiques, agrotoxiques, on va voir de la pasta al pesticida. Bon appétit, mesdames, messieurs, dans le monde qui se prépare. Le troisième point, bien entendu, troisième caractéristique de ces plantes, elles sont brevetées. Mais le brevet, c'est terminator légal. C'est terminator par la loi. La loi interdit de plus en plus à l'agriculteur de semer le grain récolté. Et là encore, on voit que c'est une poussée profonde du monde dans lequel nous sommes, cette poussée mortifère, puisque je peux dire que c'est une spécialité des ministres socialistes de l'agriculture que de vouloir séparer cette production de la reproduction. Monsieur Rocard, par exemple, en 1995, a décidé d'interdire aux établissements multiplicateurs le tri à façon. Alors, que je vous explique. Et là, c'est un peu subtil et je vous demande de l'attention. Prenez le cas du blé. Je vous dis que le cas du blé, la plante se reproduit identique à elle-même d'une génération à la suivante. Ça veut dire que l'agriculteur peut semer le grain récolté. Oui, mais le grain récolté, si vous voulez, il y a deux dimensions. Il y a la dimension héréditaire qui est exactement semblable à celui de la plante mère. Là, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi la dimension physique, en quelque sorte la disquette. Et il se trouve que le blé récolté, eh bien, il y a des mauvais programmes. On appelle ça des graines de mauvaises herbes. Il y a des grains qui sont trop petits, cassés, ou qui germeront mal, qu'il faut éliminer, etc., etc. C'est-à-dire que le grain récolté est génétiquement ou héréditairement la semence de l'année suivante, mais physiquement, le grain récolté doit subir une série d'opérations, de tri, de préparation, d'ensachage, de séchage, Dieu sait quoi encore, pour pouvoir devenir une véritable semence de qualité dont une agriculture moderne a besoin. Donc, ce sont ces opérations que faisaient ces établissements multiplicateurs, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui prenait une partie de sa récolte de blé et puis l'apportait à l'établissement multiplicateur qui faisait cette opération de tri et qui lui remettait des semences génétiquement identiques évidemment à celles qu'il avait semées auparavant, mais des semences qui étaient de qualité physique, dignes d'être des qualités pour une agriculture moderne. Donc M. Rocard tâche d'interdire ce tri à façon. C'est-à-dire que M. Rocard pense qu'il est bien préférable que les agriculteurs français sèment des semences de très mauvaise qualité physique de façon à permettre à être pénalisés, à les forcer, si vous voulez, à acheter des semences de qualité commerciale. En 1989, M. Nallet, ministre de l'Agriculture socialiste également, veut étendre cette interdiction à toutes les opérations de tri à façon. Parce que il y avait les établissements multiplicateurs, mais il y avait aussi les trieurs à façon. Les trieurs à façon, ce sont des gens qui se déplacent avec tout le matériel, qui vont dans les fermes, les grandes fermes céréalières du nord de la France, et qui trient à façon le blé, c'est-à-dire qu'ils le préparent, le blé qui a été récolté, ils le transforment en blé de semence. Encore une fois, ce n'est pas une opération qui porte sur la génétique, c'est une opération qui porte sur le physique. Ils vont même jusqu'à faire les mélanges avec les pesticides nécessaires pour, disons, protéger la graine lorsqu'elle est semée, etc., etc. C'est logique, hein, le blé est semé à raison de très, en très grosse quantité. Vous savez, le blé est semé à raison d'un quintal et demi hectare, parfois plus. Ça veut dire que sur une centaine d'hectares de blé, comme c'est très fréquent dans le nord de la France, ça veut dire quand même 15 tonnes de blé. Il vaut peut-être mieux, en effet, que le gars se promène avec son camion et son installation de tri de ferme en ferme, plutôt que d'envoyer le blé dans des semi-remorques à 200 km et le ramener 200 km après. Vous voyez, c'est quand même plus malin de faire ça. Donc bref, M. Nallet cherche à interdire tout tri à façon, toujours le même calcul. Si l'agriculteur ne peut plus trier à façon, il sera obligé de semer un blé de mauvaise qualité physique, donc il sera obligé de se tourner vers des semences commerciales. La troisième tentative a été celle de M. Glavany. M. Glavany a décidé, ministre socialiste de l'Agriculture, juste avant de la fin du gouvernement Jospin, a mis au point ce qu'on appelait la cotisation volontaire obligatoire, c'est-à-dire que les agriculteurs qui sèment le blé qu'ils ont récolté doivent de toute façon payer une redevance aux semenciers. Vous n'avez pas le choix. Il s'agit d'en finir avec cette gratuité de la vie, voyez-vous. Et cerise sur le gâteau, bien entendu, la directive européenne 1998-2004, dite de brevetabilité des inventions biotechnologiques, qui est littéralement, quand on lit le texte, on se dit, mais comment des députés qui savent lire et écrire et peut-être penser ont-ils pu voter un texte pareil? Eh bien, il a été voté, il a même été transposé en 2004, en novembre 2004, par le Parlement français, à l'unanimité, sauf le groupe communiste. Et là encore, les socialistes ont très bien joué leur rôle, puisqu'ils ont décidé qu'ils allaient voter le texte en assortissant d'une demande de renégociation. Eh bien, depuis 2004, ça vous étonnera sans doute, je n'ai jamais entendu parler que le Parti socialiste ait demandé la renégociation de cette directive. Cette directive est une directive, disons, véritablement infâme, puisque à terme, elle organise légalement, au nom du libéralisme, cette séparation entre la production et la reproduction. La meilleure image qui me vienne, si vous voulez, pour dénoncer ce genre de choses, c'est un texte, c'est celle d'un texte très célèbre d'un type qui s'appelle Frédéric Bastiat, qui était un journaliste anti-protectionniste, qui ferraillait contre les protectionnistes, les partisans du protectionnisme à son époque. Et en 1845, il a écrit un texte que tout le monde mériterait de lire, que vous pourrez trouver d'ailleurs sur Internet, qui s'appelle « La pétition des marchands de chandelles contre la concurrence déloyale du soleil ». Et donc dans laquelle les marchands de chandelles demandent donc aux autorités qu'elles fassent fermer tous les trous, fentes et fissures, vasistas, œil de bœuf, fenêtres, portes, par lesquelles la lumière entre dans nos maisons au préjudice des industries que nous avons créées. Eh bien, c'est exactement la même situation. Le Parlement français, comme le Parlement européen, comme la Commission européenne, ont décidé que désormais, eh bien, on allait séparer la production de la reproduction, séparer ce que la vie confond. Voilà où on en est dans cette Europe de merde dans laquelle on est. Et dans ce système antidémocratique dans lequel on est. Je vous ai parlé des mystifications scientifiques, des mystifications liées au vocabulaire. Si vous parlez d'OGM, vous êtes cuit. Vous êtes nécessairement entraîné à discuter des questions, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux ? Scientifiquement. Il n'y a pas de réponse possible scientifique. On pourra parler de ça si vous avez des questions à poser. Il n'y a pas de réponse scientifique à cette question. Parce qu'on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Personne ne sait à quoi ressemblera une planète transgénique. Pas se leurrer. On saura à quoi ressemble une planète transgénique une fois qu'on l'aura faite, et quand on l'aura faite, ce sera trop tard. Donc autant ne pas la faire. D'autant plus qu'il y a tous les moyens alternatifs possibles et imaginables qui permettent de résoudre des problèmes de façon élégante. Entre parenthèses, j'étais au procès de Colmar comme témoin et j'ai entendu Claude Bourguignon. Il se trouve que j'étais le premier témoin à passer, donc j'ai pu entendre les autres témoins. Et j'ai entendu Claude Bourguignon déclarer qu'à propos, vous savez, de Cournouet, l'INRA s'est mis en tête de faire des vignes résistantes au Cournouet par transgénèse. Ah, programme imbécile s'il en est, puisque Claude Bourguignon a déclaré que du Cournouet, il en faut dans les vignes, 5-6%, c'est très bien, les vins sont meilleurs. Donc il faut du Cournouet dans la vigne. Il n'en faut pas trop. Et s'il y en a trop, il suffit de cultiver des plantes nématicides, des graminées nématicides, qui vous débarrassent du problème du Cournouet, qui le maintiennent au niveau qui est favorable. Cette idée, si vous voulez, de la diversité qui est nécessaire. Eh bien, donc Claude Bourguignon a exposé ça. Donc vous voyez bien que c'était absurde ce projet Cournouet. C'est vous qui l'avez financé, entre parenthèses, ce projet de l'INRA, hein, de lutte contre le Cournouet. D'éradiquer, il s'agissait d'éradiquer le Cournouet, qui est doublement absurde. On a tous les moyens de contrôler aisément et on a besoin du Cournouet dans les vignes. Donc j'étais au procès de Colmar, si vous voulez, où on a pu assister, là encore une fois, à ce genre d'absurdité de l'INRA. Et le Cournouet, si tu voulais, c'est pareil, la vigne transgénique de l'INRA, ce sera également un clone, puisqu'en viticulture, on cultive des clones également comme pour le reste, hein, et ce sera un clone breveté, là, il ne sera pas pesticide, mais il sera breveté de toute façon. Donc vous voyez que selon qu'on parle de génétiquement modifié, d'OGM, ou selon qu'on parle de clone pesticide breveté, c'est deux visions du monde qui s'opposent. Savoir si les OGM sont dangereux ou pas, scientifiquement, c'est impossible. Par contre, n'importe qui peut se rendre compte que les clones pesticides brevetés sont extraordinairement dangereux pour notre avenir. Parce que ce sont des clones, question de la diversité, parce que c'est la poursuite du système pesticide, parce qu'enfin, ils sont brevetés. Voilà, donc j'ai essayé de vous dresser, si vous voulez, une espèce de généalogie de la sélection des plantes et des animaux. Entre parenthèses, j'aurais pu aussi vous ajouter une chose très simple, c'est que la fameuse brebis Dolly dont on vous a rabattu les oreilles pendant des années, hein, c'est tout simplement l'extension aux mammifères de ce qu'on fait ou de ce qu'on tente de faire pour les plantes depuis 2 siècles. Il y a une logique industrielle profonde derrière tout ça. Donc j'essayais de vous montrer cette logique industrielle, je vous montrer cette logique, cette poursuite des espèces de valeurs fondamentales du système. On fait de l'argent, on se moque pas mal du résultat des courses si les gens crèvent de faim après. Je dirais un très bel exemple dont on a parlé tout à l'heure, mon collègue, c'est les nécrocarburants, les agrocarburants, moi j'appelle les nécrocarburants, qui littéralement, comme l'a dit très bien, comment il s'appelle, le de Suisse, Jean Ziegler, il a dit, les gens ne meurent pas de faim, ils sont assassinés. Et l'assassinat est délibéré. Si les États-Unis ont décidé de divertir une partie de leur production agricole vers les nécrocarburants, c'est tout simplement parce qu'il s'agissait d'échapper aux lois de l'OMC qui empêchaient les subventions agricoles. Donc ils se sont dit, si on fait monter les prix agricoles sur le marché mondial en détournant une partie de la production agricole vers des usages comme celui-là, eh bien, on n'aura plus besoin, évidemment, de subventions agricoles. Le cynisme est complet. On assassine, à l'heure actuelle, on a parlé d'un milliard ou d'un milliard, 200 millions de gens qui crèvent de faim, on les assassine tout simplement en les privant de nourriture. Et on le fait exprès. On le fait exprès, pourquoi? Parce que c'est inscrit, si je puis dire, dans les gènes du système dans lequel nous sommes. Il s'agit de produire des profits, il ne s'agit pas de produire de l'utilité, de produire des choses utiles pour la société ou pour les hommes. Si les hommes n'ont pas d'argent, eh bien, ils crèvent. Je veux dire, c'est la loi du système dans lequel nous sommes. Alors on peut l'exalter comme on fait aux États-Unis en disant ça va faire que les gens vont se battre, vont être absolument extraordinaires, compétitifs et tout ça, ou on peut évidemment refuser cette vision du monde et dire que peut-être on pourrait construire le monde et nos relations autrement.
Je prends d'autorité le micro pour vous demander si vous ne pouvez voir que d'un œil favorable le procès qu'on va faire symboliquement dimanche à Monsanto.
Oui, Monsanto est une entreprise typique. Hein, c'est une entreprise véritablement effrayante. C'est une entreprise qui illustre parfaitement mon discours. Pourquoi est-ce que Monsanto s'est lancé dans la transgénèse et dans les OGM? Parce que Monsanto, à la fin des années 70, a breveté un herbicide, le glyphosate. Le glyphosate est une molécule qui avait été inventée par des chimistes suisses en 1948. Mais ce que Monsanto a fait, le travail spécifique que Monsanto a fait sur cette molécule chimique, ça a été de démontrer qu'elle avait... elle était utilisable comme herbicide. C'était un herbicide puissant. Et donc, à partir de là, Monsanto a commencé à commercialiser cet herbicide à la fin des années 1970 aux États-Unis. Et évidemment, cet herbicide, le glyphosate, a été breveté partout dans le monde. Et c'est rapidement devenu un herbicide absolument, absolument indispensable. C'est un herbicide total. Total, ça veut dire qu'il tue tout ce qui touche. Comme Monsanto faisait une grande partie de ses profits avec cet herbicide total, l'herbicide total c'est très bien pour la SNCF, pour les bords de route, enfin pour ce genre de choses, d'usage, pour les parcs, et puis pour les fainéants aussi qui ne veulent pas désherber leur allée, hein, qui conduit à leur maison. Monsanto s'est dit, mais c'était le début de la transgénèse, années 80, s'est dit, on pourrait faire une opération absolument fantastique. Si on réussissait à faire des plantes tolérantes au glyphosate, c'est-à-dire des plantes qui peuvent absorber le glyphosate sans en crever, nous deviendrons les rois du monde. Pourquoi ? Parce qu'on fera coup double. Coup double, on pourra utiliser pratiquement ce désherbant sur toutes les cultures, sur toutes les espèces cultivées, voire même dans les forêts cultivées, puisque cet herbicide va tuer tout, sauf les plantes que nous avons construites pour résister à cet herbicide, pour tolérer cet herbicide. Et deuxièmement, ce que Monsanto a fait, c'est un système de commercialisation dans lequel l'agriculteur qui achète des semences transgéniques de Monsanto tolérantes au glyphosate doit acheter des semences qui sont tolérantes non pas au glyphosate, mais qui sont tolérantes au Roundup, dont on parlait mon collègue tout à l'heure. Le Roundup, c'est-à-dire le nom de marque. Donc Monsanto a anticipé le fait que cet herbicide, le brevet sur cet herbicide, allait échoir en l'an 2000 un peu partout dans le monde. Donc ils ont commencé à sortir des plantes tolérantes à cet herbicide, de façon à faire coup double, pouvoir élargir le marché pour cet herbicide de façon pratiquement indéfinie, premièrement, tout en maintenant le prix à un prix, disons, du pesticide de marque breveté, dont le brevet est encore valable, et non pas au prix du pesticide générique. Donc c'est ça la stratégie de Monsanto. Et dans une société qui est dominée par le profit, c'est une stratégie, il faut bien le reconnaître, qui est géniale. Elle est géniale. D'ailleurs, elle a été imitée par tous les autres fabricants de pesticides. Mais Monsanto a été de l'avant, évidemment, sans tenir compte ni des conditions environnementales, ni du fait que, bien entendu, comme toujours dans le vivant, quand vous utilisez un herbicide, un pesticide, un insecticide, très rapidement, les plantes ou les insectes deviennent tolérants ou résistants et il faut en utiliser d'autres. Ce qui n'a strictement aucune espèce d'importance du point de vue du fabricant de pesticides, puisque ça va élargir, son marché va s'élargir continuellement. En plus, Monsanto a réussi à breveter le fait de mélanger des herbicides entre eux, ce qui est une vieille pratique des agriculteurs, hein, et bien maintenant c'est breveté. Et alors que ça tombe très bien, puisque de toute façon, maintenant, aux États-Unis, vous avez des plantes, des amarantes qui sont devenues résistantes, très résistantes même au Roundup, qu'à cela ne tienne, Monsanto arrive en disant, vous allez mélanger les herbicides et vous allez acheter mon mélange breveté d'herbicides. Aucun problème. En fait, tout ça m'amène à une critique du système pesticide, qui est un système littéralement aberrant. Et si on avait une recherche publique, véritablement publique, eh bien, ça fait longtemps que les chercheurs auraient dénoncé ce système. Un monsieur comme David Pimentel, à l'université de Cornell, a pu calculer qu'aux États-Unis, en une quarantaine d'années, je crois que les calculs s'arrêtent en 85 ou 86, en une quarantaine d'années, l'utilisation des pesticides a été multipliée 40 fois aux États-Unis. Les pertes de récolte sont restées les mêmes. Quelle preuve, meilleure preuve, peut-il y avoir du fait que ça ne marche pas? Ça ne marche que parce que l'agriculteur est ligoté, c'est-à-dire que les pesticides, c'est vraiment, dans le domaine agricole, l'équivalent des drogues dures dans les quartiers. C'est-à-dire que, en effet, je le comprends très bien, quand les premiers pesticides sont apparus pour des gens qui avaient ramassé les doryphores sur les plantes de patates pendant la guerre, c'est apparu comme véritablement miraculeux. Simplement, au bout d'un moment, les doryphores deviennent tolérants, et puis il faut augmenter les doses, c'est très bien pour les marchands de pesticides, et puis au bout d'un moment, en général, lorsque le brevet sur tel pesticide est échu, eh bien, on déclare qu'il est inefficace, ou que les insectes sont devenus résistants, et il faut changer de pesticide, et justement, j'ai une nouvelle molécule à vous vendre, beaucoup plus chère, qui est là, sous la main. Quoi. C'est comme ça que ça se passe, hein. On est passé ainsi des organochlorés aux organophosphorés, aux nicotinoïdes, aux pyréthrénoïdes, et sans arrêt, c'est une espèce de fuite en avant, si vous voulez, qui ne fait que élargir le marché et la dépendance des agriculteurs. Et Monsanto est une entreprise de ce côté-là absolument, typique du système dans lequel nous sommes. C'est un bel exemple, si vous voulez, de ce qu'est le capitalisme. Il ne faut pas du tout considérer Monsanto comme une exception, hein. Il faut considérer Monsanto comme, si vous voulez, l'illustration de la façon dont notre monde fonctionne. Oui, ils font ça, oui, bien sûr. Il y a même une discipline qui est en plein essor là, depuis une vingtaine d'années, ce qu'on appelle l'ethnobotanisme. L'ethnobotanique qui consiste à aller piller le cerveau des chamans et des sorciers un peu partout à travers le monde pour identifier les molécules que ces gens-là ont réussi à... Enfin, les molécules, les plantes ou les insectes que ces gens-là utilisent, disons, dans les soins. Et sachant qu'évidemment, ils découvrent des choses tout à fait intéressantes dans ces molécules, dans ces plantes. Et dans ces insectes aussi, hein. Donc, en effet, il y a toute une industrie maintenant de recherche là-dessus. Alors, évidemment, là aussi, les chercheurs n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils font, hein. Les ethnobotanistes s'intéressent à l'ethnologie, à la botanique. Bon, c'est en effet des choses qui sont passionnantes. Et ensuite, ils reviennent. Et ensuite, évidemment, c'est les laboratoires, les grands laboratoires qui cherchent à tirer profit de ces connaissances. Oui, c'est... Mais si vous voulez, on est dans une situation, cette histoire de brevet sur les plantes, sur les semences ou sur le monde vivant est une histoire invraisemblable. Si je prends l'exemple des États-Unis, il faut savoir que l'Amérique du Nord, d'une manière générale, c'est un continent où il y a, parce que c'est un continent jeune, dit-on, c'est un continent où il n'y a vraiment pas grand-chose. En matière d'espèces cultivées, si vous voulez, la seule plante d'intérêt agronomique originaire d'Amérique du Nord, c'est le tournesol. Et en matière d'animaux d'élevage, le seul animal intéressant que nous a apporté l'Amérique du Nord, c'est la dinde. Bon, personnellement, si vous voulez, si les États-Unis veulent garder un monopole de la dinde, je la leur laisse. Hein. Bon. Tout ce qui est cultivé aux États-Unis est importé. Ça commençait très tôt. Par exemple, Thomas Jefferson, qui était ambassadeur des États-Unis en France avant la Révolution française. Thomas Jefferson fait un voyage en Italie et risque la peine de mort parce qu'il a sorti en contrebande des semences de riz d'Italie qui vont être le point de départ de la riziculture aux États-Unis. Tous les attachés navals américains au cours du XIXe siècle ont pour mission, partout où ils vont, de renvoyer, et c'est très intéressant et très significatif, au bureau des brevets, au patent office, les lots de semences qu'ils ont obtenus, qu'ils ont pu se procurer. Et ensuite, ces lots sont distribués et essayés par le bureau des brevets, sont essayés au jardin botanique ou chez les agriculteurs eux-mêmes. Mais toutes les plantes qui sont cultivées aux États-Unis, tous les animaux, tout ça, ça vient d'Europe, du monde entier. Le soja, bien sûr, n'est jamais venu aux États-Unis. Le soja, de 1928 à 1931, lorsqu'on s'aperçoit que le soja peut être la plante clé de l'industrialisation de l'agriculture, eh bien, les États-Unis envoient une mission de 3 agronomes sélectionneurs, généticiens, qui vont ramener 3500 variétés types de soja de Chine. Et les États-Unis deviennent le plus principal exportateur de soja, disons, dans les années qui vont suivre, jusqu'à ce que le Brésil le détrône quelque peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à une agriculture qui est fondamentalement importée. Donc voilà un pays qui a importé, qui a pillé littéralement les ressources génétiques dans le monde entier, et l'Europe est aussi dans le même cas, qui maintenant est en train de dire aux pays du tiers-monde, eh bien, nous, on a mis un brevet sur les semences, sur les gènes et tout ce truc-là, et vous allez payer ce que vous nous avez donné. Attendez, ce que j'arrive pas à comprendre, moi, c'est comment, dans les négociations internationales, les pays du tiers-monde, enfin, si ça se comprend très bien, c'est une question du fait que, bon, ils sont pris à la gorge, ils ne peuvent pas faire autrement, mais pourquoi ils ne rient pas au nez des pays du sang, des pays industriels, en leur disant, écoutez, vous êtes brevet, on ne veut pas en entendre parler. Hein, vous nous avez pris tout ce matériel-là, maintenant, vous n'allez pas le breveter. Vous n'allez pas breveter ce que nous avez volé. On en est dans cette situation-là. Vandana Shiva a une très jolie expression à propos de la question que vous posiez. Elle disait que c'était l'équivalent. Ce qui se passait dans ce domaine-là, donc l'idée de breveter un gène et de breveter une plante qui contient un gène breveté, qu'une plante contenant un gène breveté était elle-même brevetable, ça reviendrait à ce que quelqu'un trouve dans la rue une chaise. Il s'empare de la chaise ou il la vole, il la met dans l'immeuble et il dit maintenant l'immeuble m'appartient. C'est à peu près l'équivalent de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Il s'agit de lutter en effet contre la reproduction gratuite des plantes et des animaux. C'est les dernières mesures dont tu viens de parler, c'est exactement ça. On va rendre tout payant, c'est formidable le marché. Il s'agit de supprimer, si vous voulez, les espaces de liberté et d'autonomie nos derniers espaces de liberté et d'autonomie. Voilà, je crois qu'on en est là, si vous voulez. On est dans une société, elle se présente comme étant une société libre, ouverte. C'est pas vrai, c'est une société qui, sur le plan technique, devient de plus en plus liberticide. D'ailleurs, bon, tu le sais très bien toi-même, je veux dire, en tant que paysan, tu ne peux pas aller pisser au coin de ton champ sans faire une déclaration à la Commission européenne. Enfin bon, c'est quand on atteint ce degré-là, si vous voulez, de bureaucratie, et il y a quelque chose qui est... Si vous voulez, il y a dans tout l'évolution sociétale dans laquelle nous sommes, et depuis je vous parle depuis maintenant 2 siècles, depuis le capitalisme industriel, il y a une volonté de contrôle social. Entre parenthèses, la biologie moléculaire est lancée par la fondation Rockefeller dans les années 30. Le terme est utilisé par Warren Weaver, qui est le directeur des sciences de la vie à la fondation Rockefeller. Et le but de la biologie moléculaire, et Warren le dit textuellement, c'est d'avoir un meilleur contrôle social. C'est de l'ingénierie sociale qui souhaite derrière ça. Mais on y est dedans. Diagnostic préimplantatoire, puis le commerce d'embryons, ben ça il va y venir. Enfin bon, je veux dire, c'est. On est vraiment dans une société, je pense, dans laquelle malheureusement, nos libertés sont vraiment très très menacées. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, peut-être sur Sciences Citoyennes, j'aurais une suggestion à faire à Sciences Citoyennes. Bon, vous y avez sans doute pensé, mais ce serait impossible à obtenir, hein, mais je ne me fais pas d'illusion là-dessus. Mais ce serait, disons, que, au moins pour ce qui concerne la recherche publique maintenant, elle soit obligée, sur chacun des projets dans lesquels est engagé de l'argent du contribuable, elle soit obligée de réfléchir aux conséquences sociales que cette recherche pourrait avoir, avec quelque chose qui devrait aller par derrière, c'est-à-dire la possibilité des associations, comme Sciences Citoyennes, de traîner devant les tribunaux les laboratoires ou les chercheurs qui n'auraient pas fait cette étude. C'est-à-dire qu'ils ne se seraient pas posé la question de savoir à quoi allaient servir leurs travaux. Alors, je pense que ça, ce serait une situation intéressante parce que ça mettrait les chercheurs en position de responsabilité et ça permettrait aux associations d'avoir un moyen juridique en disant « Attendez, vous êtes en train de faire ce tel projet, là, mais à quoi ça sert, ça ?» Disons que ça, c'est ce qu'on dit le moule. Je veux dire, il y en a marre d'entendre parler du moule des grandes écoles, ça veut dire que vous fabriquez en série des clones. Voilà. Bon, on fait du clonage en série. Je veux dire, Albert Jacquard, très bien, à propos, qui est polytechnicien, explique que le Polytechnicum de Zurich, qui serait à peu près l'équivalent de Polytechnique en France, a sorti entre 28 et 33 prix Nobel. Hein, Polytechnique, il y en a eu un encore, il est en économie. Bon, donc, c'est vraiment du gâchis d'intellect, le système des grandes écoles en France. Non, c'est des systèmes de technocratie et de pouvoir. Voilà, c'est ce qu'on peut en dire. Mais bon, quand on parle de grandes écoles scientifiques, moi, ça me fait doucement rire. Même s'il y a des sciences au programme, mais c'est une forme de science. Ils se disent des gens très bien quand il s'agit de construire, disons, un TGV ou un Airbus. Hein. Mais quand on leur demande de se mêler du vivant, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas. D'ailleurs, le terme même, si vous voulez, on parle d'ingénieur agronome. Moi, je suis ingénieur agronome, mais c'est une contradiction dans les termes. On ne peut pas être ingénieur. Ingénieur, c'est des procédures fixes, etc., etc., solides, testées, etc. Et la vie, c'est sans arrêt le fait de s'adapter à des conditions changeantes, variantes. Je veux dire, c'est pas. On ne peut pas être ingénieur agronome. On est agronome ou ingénieur, mais on n'est pas les deux. En réalité, derrière ça, il y a véritablement un projet politique dans la constitution des grandes écoles d'agronomie, de faire des ingénieurs agronomes, en effet, de transformer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture, d'en finir une fois pour toutes avec l'agriculture et pour mettre en place un système agro-industriel, ce qui a été réussi brillamment. Il y a eu un travail qui a été fait aux États-Unis, ça j'aimerais bien qu'il y ait une équipe un jour qui s'y mette en France, donc dans des conditions du nord de la Californie, c'est des conditions avec 2-3 mois d'arrêt de la végétation, donc ils sont intéressés aux. Ils ont voulu savoir quelle était la superficie minimale nécessaire pour nourrir une personne. De façon évidemment frugale, hein. Il ne s'agit pas de bouffer des côtes de bœuf, disons, à tous les repas. Non, ça, non. Mais, et donc, ils arrivent, je crois, à 450 mètres carrés à condition qu'il y ait de l'eau. Bon. Donc voilà, il y a de quoi nourrir très largement la planète. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut continuer à procréer comme des lapins. Bon. Mais l'Inde, tenez-vous bien quand même, l'Inde se nourrit quand même, grosso modo, grâce à une paysannerie extraordinairement nombreuse. Mais l'Inde est un pays qui a une densité de population de 320 ou 330 habitants au kilomètre carré. Et il y a des déserts en Inde. C'est un pays, disons, d'une densité incroyable. Mais ils s'en sortent, pourquoi? Parce qu'il y a une paysannerie extrêmement active, qui cultive très bien, qui cultive de façon extrêmement variée. Je veux dire, Non, mais même quelqu'un qui était quand même un des principaux promoteurs de l'industrialisation de l'agriculture en France, qui s'appelle Edgar Pisani, qui était le grand ministre de l'agriculture de l'époque gaullienne, eh bien, Edgar Pisani, maintenant, dit on a été beaucoup trop loin, il faut arrêter les frais, il faut revenir à une paysannerie. Une paysannerie, les paysans produisent beaucoup plus par unité de superficie, il y a plus de travail, bien sûr. Mais c'est. Mais oui, mais bien sûr. Je veux dire, moi, je suis désespéré quand je vois dans ma région, en Provence, quand je vois partout les restants qui s'effondrent, enfin, etc. Mais il y a du travail. Je veux dire, on est en train de tout nettoyer, de tout liquider un patrimoine de diversité absolument extraordinaire. La France est un pays, vous faites 50 km, vous déplacez de 50 km, tout change. D'un pays d'une diversité absolument merveilleuse, où les paysans, les communautés rurales ont réussi vraiment à coller au terrain, à s'adapter, à l'utiliser de façon intelligente et de façon esthétique aussi. Mais regardez ce qu'il en reste maintenant. Oui, et puis tout le problème aussi, ce qu'on appelle qualité, parce que dans des conditions écologiques données, dans un. Bon, tel point est une qualité, mais vous déplacez de 50 km et ça devient un défaut. Je veux dire, donc, ce qu'on terme qualité, c'est absurde. J'ai des copains qui sont éleveurs de Gascogne et qui ont quitté l'UPRA, c'est-à-dire le système d'élevage centralisé que l'INRA a mis au point, l'UPRA Gascogne, quand l'UPRA a voulu introduire un gène de Cular dans la Gascogne. Là, ils ont dit, non, mais attendez, là, vous êtes malade ou quoi? Donc là, ils ont abandonné et ils cherchent maintenant à revenir au type de la Gascogne que les parents ou grands-parents ont élevé, c'est-à-dire un animal fait pour courir la montagne et pour courir plus vite que l'ours d'ailleurs. C'est un sélectionneur de bovins américains, de vachetiers américains, qui m'a dit à propos de la Holstein, il m'a dit, c'est la seule façon qu'on a trouvée pour mouiller le lait, la seule façon légale qu'on a trouvée pour mouiller le lait.